Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Cage et vous écoutez notre édition du journal. Voici le titre qui marque l'actualité aujourd'hui. Manifestation contre les lieux de culte. L'Assemblée nationale appelle au calme et promet des sanctions sévères. Le gouverneur de Kinshasa annonce quant à lui la mobilisation des forces de l'ordre pour contenir les manifestants. Des mesures strictes seront prises contre les fauteurs des troubles. Formation gratuite dans divers métiers pour près de 5000 jeunes, y compris de dépendants des forces armées de la RDC et de la police. Le ministre de l'Intérieur a officiellement lancé ses programmes ambitieux à Kinshasa. Cette démarche vise à offrir des opportunités d'emploi et à renforcer les compétences professionnelles de jeunes Congolais. 33 ans après les manifestations pour la réouverture de la conférence nationale souveraine, la RDC peine toujours à décoller. Jean-Marie Ntanoumeil, conseiller de la commission paroissiale des intellectuels de Saint-Augustin de Lemba, partage cette opinion. Il s'est exprimé lors d'une messe d'action des grâces en mémoire de chrétiens décédés le 16 février 1992. Jean-Marie Ntanoumeil est notre invité. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette information. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré samedi à Addis Abeba le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Les deux hommes ont discuté des initiatives visant à promouvoir le développement socio-économique du pays. Le secrétaire général et le président ont également abordé la situation à l'est de la RDC, caractérisée par les tensions armées à la suite de la guerre imposée au gouvernement congolais par le M23 et leurs alliés. Concernant toujours la guerre d'agression qui subit la RDC, le président français Emmanuel Macron a déclaré sur son compte X avoir discuté avec le président Tshisekedi de la situation très préoccupante dans les Kivu. Il a indiqué, je cite, « Nous avons exprimé notre accord sur le point suivant. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre le retour sans délai des autorités civiles et militaires à Bukavu. Le M23 doit se retirer de l'aéroport de Kavumu et permettre le vol civil et humanitaire sans entrave. J'appelle le Rwanda à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence. » Fin de citation. À propos de manifestations prévues ce dimanche à Kinshasa contre les lieux des cultes catholiques et protestants, le bureau de l'Assemblée nationale appelle au calme et à la retenue. Il invite tous les croyants, qu'ils soient catholiques, protestants ou d'autres confessions, à se rendre sereinement dans leur lieu de culte ce dimanche 16 février sans craindre des représailles. Dans une déclaration faite ce samedi au Palais du Peuple et en insistant sur les caractères laïcs de l'État congolais, le premier et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale promettent des sanctions sévères contre toute personne appréhendée en flagrant délit d'attaque ou d'atteinte au lieu de culte. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
Avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, nous avons tous vu des messages préparés dans les officines de nos ennemis et de ceux qui combattent la République, lesquels messages incitent à profaner les lieux de culte en ce jour du dimanche. Je rappelle que ces messages sont des messages des ennemis. Nous, ici au Congo, nous sommes un État démocratique. Nous sommes un État où les libertés s'exercent pleinement. Et l'une de ces libertés, c'est la liberté des cultes. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un se lève dimanche pour aller perturber la quiétude de ceux qui ont choisi de glorifier leur Dieu. Et donc, il faut que tous ces gens qui lancent ces messages les arrêtent et que tout celui qui tenterait de perturber la quiétude des lieux des cultes soit interpellé, jugé et condamné sévèrement. Et cela vaut autant pour le respect dû aux serviteurs de Dieu, qu'ils soient catholiques, protestants et autres.
Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans son message d'hier, rappelle aux instigateurs de manifestations contre les églises que les lieux de prière sont sacrés. Il serait inacceptable que des gens se lèvent pour perturber le service religieux un dimanche. Il recommande aux initiateurs de ce mouvement d'attendre le compte-rendu que la SANCO et les CC feront à l'issue de leur consultation. Écoutons Patrick Muyaya dans cet extrait sélectionné par Blaise Makassi.
Je voudrais spécifiquement m'adresser aux jeunes de Kinshasa parce que on a vu qu'il y avait des réactions de colère lorsqu'on a vu les images de nos pères de l'Église catholique et protestante avec ce que nous considérons comme des ennemis. L'Église a vocation de travailler pour la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'œuvre de prêtre s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix est une démarche qui a été présentée au président de la République. Les églises, les lieux des prières sont des lieux sacrés. Penser s'en prendre à des lieux des prières, c'est penser s'en prendre à Dieu. S'ils ont mal agi, c'est Dieu le juge. Mais ce serait inacceptable que des gens s'élèvent pour aller perturber les services religieux un jour de dimanche. Les prêtres auront l'occasion, quand ils auront terminé leur consultation, de s'exprimer et en ce moment-là, on pourra voir la pertinence de leur démarche auprès de ceux que nous considérons comme des ennemis.
Du côté de l'Église catholique, dans un communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse, le cardinal Fridolin Ambongo exhorte ses brebis à la prudence et les encourage à assister à la messe avec vigilance afin de prier pour la RDC. Plus de précisions avec vous, Askin Zibia Tayoro.
N'ayez pas peur, tenez bon. C'est le message de l'Église catholique adressé aux fidèles de Kinshasa. C'est une façon pour l'archidiocèse de Kinshasa d'attirer ce dimanche l'attention des fidèles face aux menaces proférées contre les paroisses par des personnes non autrement identifiées. Ce communiqué invite les fidèles catholiques à la prudence, vigilance et protection des infrastructures des églises. À travers ce communiqué, le cardinal Fridolin Ambongo demande à ses brebis de ne pas céder aux intimidations. C'est dans ce contexte que le cardinal prie les fidèles à se rendre ce dimanche à la messe afin d'offrir au Seigneur la RDC. Le communiqué de la chancellerie fixe l'opinion sur les droits inaliénables garantis par la Constitution permettant aux citoyens de vivre sa foi en toute liberté et sérénité. Pour l'Église catholique, aujourd'hui plus que jamais, la RDC a davantage besoin de paix, d'unité et de cohésion nationale. Car mentionne le communiqué, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Le cardinal Fridolin Ambongo invite également le chrétien à intensifier les prières en faveur de frères et sœurs dans l'Est des FARDC, ainsi que tous ceux et celles qui luttent pour la paix.
Prenons cette autre réaction du panel des experts de la société civile avec son président national et porte-parole qui condamne également les menaces contre les églises. Dieudonné Moussa Galoussa au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Face aux menaces proférées par certaines personnes non autrement identifiées, appelant à ce qu'on puisse attaquer les églises, spécialement l'église catholique, l'église protestante ce dimanche, le panel des experts de la société civile condamne avec la dernière énergie des actes pareils qu'il faut appeler à la violence et appelle toute la jeunesse de la République démocratique du Congo et spécialement ceux de Kinshasa à ne pas suivre les gens qui veulent allumer le feu au moment où le pays traverse ces moments difficiles, au moment où l'on travaille et l'on recherche des solutions pour pouvoir juguler la crise que traverse notre pays. Nous ne pouvons pas soutenir des actions pareilles. Nous les condamnons fermement et nous en appelons aux fidèles catholiques. Nous en appelons également à la jeunesse de ne pas suivre ces messages parce que ça risque d'avoir des effets contraires par rapport à ce qu'on veut.
Direction Nord Kivu, le démantèlement non planifié de sites abritant les personnes déplacées internes à Goma et ses environs inquiète les humanitaires. Fin décembre 2024, la province comptait 2,8 millions de déplacés dont près de la moitié a vécu environ 3 ans dans des sites autour de Goma. Cette dispersion soudaine soulève de nombreuses questions. Chris Mukanda.
Certes, il faudra des réponses à cette obligation. Ces milliers de familles de déguerpir de ce site d'accueil Le temps de faire un bref survol sur ce qu'étaient ces sites. Ils avaient été classés par axe, se abritant les déplacés en provenance des territoires de la partie est de la province du Nord Kivu et qui s'étaient installés dans le territoire de Nyiragongo. C'est l'axe Kanyaruchinya-Goma. Et ceux venus de la partie ouest de la ville sont ceux de l'axe Goma-Sake. Ici, on trouvait entre autres les sites de Bouyimba, Boulengo, Sebeka, 8e Sepak, Luashi, Samsam et Lushagala. Sur l'axe Kanyaruchinya, personne n'a été consulté en amont. Après les affrontements entre les militaires de l'armée nationale et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise, tous les camps de cet axe ont été détruits. Selon le rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, en sigle OCHA, plus de 100 000 déplacés ont quitté Goma et pris la direction des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Ce sont principalement ceux des sites de Boulengo et de 8e Sepak qui avaient été sommés par les rebelles de vider les lieux en ayant 3 jours. À Boulengo, dans le quartier Lac Vert, quelques abris d'urgence sont encore sur le site. Ils sont pour ceux qui ne savent où aller.
Sachez aussi que la Commission de l'Union africaine a un nouveau président. Le diplomate djiboutien Ali Mahamout Youssef a été élu hier pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie. Il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Plus de détails avec vous, Blaise Dongala Mayanda.
L'élection de Mahamoud Ali Youssouf intervient à un moment crucial de l'Union africaine qui doit faire face à des conflits régionaux persistants, notamment en République démocratique du Congo. Son expérience et sa vision stratégique seront déterminantes pour renforcer l'unité et la stabilité continentale. Parmi les autres candidats figurés, les Kenyans Raila Odinga et les Mauriciens Anil Gayan. En tant que nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf est désormais chargé de piloter les initiatives continentales visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. Titulaire d'un baccalauréat obtenu au lycée de Djibouti en 1985, cette autorité est une figure emblématique de la diplomatie djiboutienne et elle a poursuivi des études en langue étrangère appliquée à l'université Lyon 2 entre 1985 et 90. Mahamoud Ali Youssouf est le 6e président de la Commission de l'Union africaine après l'Ivoirien Amara Essi, le Malien Alpha Oumar Konaré, le Gabonais Jean Ping, le Sud-Africain Constance Zana Zuma et le Tchadien Moussa Faki.
Comme annoncé dans le titre, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé hier samedi à Kinshasa la formation gratuite de près de 5000 jeunes inscrits lors de la première édition de la foire de la formation professionnelle. Les centres sélectionnés pour accueillir ces jeunes apprenants sont des partenaires du ministère évalués et jugés viables par les équipes d'enquêteurs pour garantir une formation de qualité. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, souligne que cette première cohorte de formation est particulière en raison de la participation de près de 1500 dépendants de forces armées de la RDC et de la police, marquant ainsi le soutien et l'encouragement aux militaires en service. Il s'exprime dans cet extrait proposé par Blaise Makassi.
Et tous les inscrits de cette foire proviennent des diverses couches de notre société. Les étudiants, cadres universitaires, les agents des sociétés, ceux de l'administration, les jeunes en quête d'emploi, les femmes ménagères, les personnes vivant avec handicap. L'effectivité de cette idée de formation gratuite a été rendue possible grâce à des partenaires et promoteurs des centres de formation privés qui ont accepté, dans un élan de partenariat inédit, d'accueillir chacun un nombre considérable de ces apprenants inscrits dans différents métiers. Je vous exhorte donc à tenir jusqu'au bout et de surmonter d'éventuelles difficultés. Saisissez la perche et devenez utile pour le bien-être de notre gouvernement, de vos familles et de toute la nation.
Diverses filières sont concernées par ces formations gratuites, notamment le métier de sapeur-pompier, la construction, la menuiserie métallique et en bois, la vidéosurveillance, la cybersécurité, la coupe et couture, ainsi que de nombreuses autres filières liées à l'information et à l'intelligence artificielle. Dans la province du Kwilu, le territoire de Bulungu n'a pas accès à l'eau potable depuis plusieurs années. Les habitants consomment de l'eau provenant des sources non aménagées. À alerte mercredi 12 février, le président de la société civile locale face à cette situation, Franck Kitampindo, craint la propagation des maladies d'origine hydrique comme la dysenterie qui sévit dans cette région. Il appelle les autorités compétentes à approvisionner les habitants de ce territoire en eau potable. Le point avec Irène Boma Luzolo.
L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais cela n'est pas le cas pour les habitants du territoire de Bulungu, particulièrement ceux vivant dans les secteurs en dehors du chef-lieu de cette entité. Ces populations consomment toujours l'eau des sources naturelles non aménagées, jugées impropres à la consommation. C'est le président de la société civile de Bulungu qui les fait savoir, Franck Kitapindu.
Nous nous servons toujours des eaux des sources naturelles. Ce ne sont pas des sources aménagées, ce sont des sources authentiques qui datent de longtemps et avec des méthodes anciennes que les gens utilisent. Et en dehors de la cité de Bulungu, mais ces périphéries souffrent en pénurie d'eau potable.
Cette situation est à la base de la résurgence de plusieurs maladies d'origine hydrique dans ces coins de la province du Kwilu, a déclaré Franck Kitapindu. Il plaide pour que ces populations aient aussi accès à l'eau potable.
La population est en train de souffrir beaucoup plus que de la dysenterie, des maux de ventre, tout ça. Ce sont des maladies hydriques causées par le manquement d'eau potable. Nous ne cesserons pas toujours de créer pour que l'État puisse nous aider pour approvisionner de l'eau potable, créer des puits pour que nous soyons en bonne santé.
Précisons que c'est depuis plusieurs années qu'il s'observe la pénurie en eau potable à Bulungu, ajoute cette source de la société civile. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, la cité de Kabimba, dans le territoire de Kalemi, fait face à une pénurie d'eau potable depuis plusieurs jours. Selon des sources locales, de nombreux tuyaux sont usés, obligeant la population à puiser l'eau du lac Tanganyika, de rivières et de puits non traités. Face à cette situation, le chef du quartier Lubandai lance un SOS aux autorités pour trouver une solution. Il est à noter que c'est la société chinoise GLC, basée à Kabimba, qui approvisionne la cité en eau potable. Paulin Munanga.
L'eau coule rarement à quelques robinets de la cité de Kabimba. La population attend jusqu'à des heures tardives pour s'approvisionner en eau potable qui est fournie par la société GLC. La régie des eaux n'est pas présente dans cette partie de la province du Tanganyika. Témoignage du chef de quartier Lubandai, Michel Sake. La population de la cité de Kabimba puise l'eau du robinet au quartier Lubandai uniquement. Les gens veillent toute la nuit pour avoir de l'eau. Il faut être là à partir de 2h jusqu'à 5h du matin pour avoir de l'eau. Et il n'y a que deux robinets qui sont opérationnels. Nous demandons à l'administrateur du territoire de Kalemie de s'impliquer dans ce dossier pour que nous ayons de l'eau potable en grande quantité. Les habitants de Kabimba ont assez souffert. Face à cette situation, une bonne partie de la population de Kabimba consomme l'eau des puits non traités du lac Tanganyika et d'autres rivières. La population craint la résurgence des maladies d'origine hydrique, annonce certaines sources locales. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Volodymyr Zelensky a annoncé samedi 15 février refuser un accord avec Washington sur les minerais ukrainiens. Selon le président ukrainien, pour le Kiev accepter un tel accord, les États-Unis doivent donner des garanties de sécurité, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Une annonce faite lors de la conférence sur la sécurité qui se tient depuis ce vendredi à Munich. Donald Trump avait publiquement expliqué que son pays souhaitait exploiter à terme des ressources en minerais de l'Ukraine à hauteur de 500 milliards de dollars, notamment de terres rares, de titane, de l'uranium ou encore du lithium. Kiev avait acquiescé. L'Ukraine a même remis ce vendredi ses propositions en vue d'un accord bilatéral lors de la visite dans la capitale ukrainienne du secrétaire américain au Trésor. Un accord de la sorte aurait permis de s'assurer du soutien des États-Unis alors que Donald Trump veut entamer le plus rapidement possible des discussions avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit.
L'invité.
La commission paroissiale des intellectuels de Saint-Augustin dans la commune de Limba a organisé ce samedi à Kinshasa une messe d'action de grâce en mémoire de chrétiens décédés le 16 février 1992. Invité de Radio Capi, le conseiller de cette structure, Jean-Marie Tantoumeil, déplore le manque de développement du pays 33 ans après cet événement tragique lié à la réouverture de la conférence nationale souveraine. Il exhorte les Congolais à renoncer à la violence pour accéder au pouvoir. Il encourage en même temps le jeune à contribuer au développement du pays plutôt que de se livrer à des actes de vandalisme. Jean-Marie Tantoumeil s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Jean-Marie Tantoumeil.
Bonjour monsieur le président.
Vous êtes acteur témoin rescapé de la marche du 16 février 1992. Qu'est-ce qui vous rappelle encore cet événement 33 ans après?
En tant que rescapé, j'ai gardé un souvenir amer par rapport à la dictature. En effet, je suis un des rescapés qui a failli mourir au niveau de Mama Poto, où la délégation que je conduisais des chrétiens catholiques de la commune de Bandal a connu la perte en vie et un membre du corps de certains parents aimés qui sont tombés dans les caniveaux. Certains sont morts, d'autres sont handicapés jusqu'à aujourd'hui. 33 ans après cette marche, ces martyrs sont-ils morts pour rien? À part le changement des dirigeants politiques au sommet de l'État et dans le Parlement, les populations sans ambition politique continuent à souffrir, mal rémunérées. C'est eux qui meurent à Goma, à Rutshuru, à Bunagana, au Kivu en général. Les acteurs politiques commanditaires de cette guerre et les commerçants véreux ne meurent jamais. Doit-on continuer à assister à ces morts des innocents pendant que les acteurs continuent à changer de régime du président Mobutu à ces jours? Voilà pourquoi nous avons organisé une messe de grâce pour prier pour ces gens qui ont perdu leur vie, leurs membres du corps et leur emploi, pour avoir simplement marché contre la dictature du président Mobutu.
Vous êtes conseiller de la commission paroissiale des intellectuels de Saint-Augustin à Limba. Si on vous demandait de faire le parallélisme entre le 16 février 1992 et 16 février 2025, que diriez-vous sur le plan politique?
Sur le plan politique, je regretterais la mort des pauvres mamans et papas des jeunes qui sont morts pour rien. Parce que le 16 février 2025 n'a rien de différent du 16 février d'avant la CNS. Avant la CNS est même pire qu'après la CNS. Le père parti État est remplacé par plusieurs partis État. Pour avoir un travail, une promotion, il faut être membre dirigeant d'un parti politique. Rien n'a changé dans le positif. Tout s'est empiré. Si le président Mobutu revenait, il se moquera de nous.
Quelle leçon avez-vous tirée de cette manifestation religieuse?
La leçon est que les Congolais doivent continuer à lutter pacifiquement sans prendre les armes. Parce que quand on prend les armes, ce n'est pas ceux qu'on combat qui meurent, ce sont les pauvres populations sans ambition politique qui disparaissent. Ceux qui sont morts à Goma, aucun ministre, aucun député, aucun chef de l'État, aucun ambassadeur. Nous devons lutter pour un changement pacifique. Les têtes bien pensantes sont invitées à réfléchir afin que ceux qui sont élus députés ne prennent pas le pays en otage. Nous avons un chef de l'État, mais il n'y a pas un propriétaire de l'État congolais. L'État congolais appartient à nous.
Alors, quel message apporterez-vous surtout aux jeunes d'aujourd'hui dont la majorité n'avait pas vécu cet événement de la marche?
Je leur demanderai de venir à l'école de Tantoumeil, qui a un centre culturel congolais qui est né de Saint-Moulin, où nous apprenons aux jeunes tous les lundis de 9h à 17h, dimanche de 14h à 17h, comment changer la mentalité du Congolais. Parce que nos dirigeants sont le produit de la société. Tant que le Congolais restera dans le BMW, bière, musique et women, rien ne changera. Que les jeunes cessent de croire qu'il faut être dans un parti politique pour avoir un emploi, pour avoir une promotion. Non, nous avons étudié qui psychologue, qui pédagogue, qui agriculteur, qui médecin, qui magistrat. Chacun doit vivre du travail qu'il a fait à l'école et non pas être militant ou dirigeant d'un parti politique. Tout en ayant des militants ou dirigeants d'un parti politique, on doit assurer la promotion de ceux qui ont étudié et qui sont de bonne conduite. On ne doit pas devenir otage des partis politiques ni d'une famille politique.
Monsieur Jean-Marie Tantoumeil, nous vous disons merci.
Merci, monsieur Blaise.
Jean-Marie Tantoumeil, conseiller de la commission paroissiale des intellectuels de Saint-Augustin dans la commune de Lemba, était interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. C'est ainsi que s'est terminé ce journal sur Radio Kapi. À la mise en onde, Polydor Basunga, à la coordination Jude Bilanda et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Continuez à suivre le programme de Radio Kapi. Excellent dimanche à tous.